Je voudrais vous exposer une vérité tout à fait particulière de cette fondation des cercles de la tradition catholique, un aspect particulier des circonstances de la fondation de ces cercles en pleine crise de l'Église, en dépendance de l'autorité hiérarchique. Mais il y a un problème qui se pose immédiatement. Vous le devinez, ces prêtres, ces évêques, ces supérieurs de district, ce supérieur général, ces communautés de tradition, quelle autorité ont-elles dans l'Église? Je ne dis pas non seulement parce qu'elles sont soi-disant excommuniées, mais parce qu'elles ne reçoivent pas leur autorité de la hiérarchie de l'Église officielle. Nos prêtres ne reçoivent pas le pouvoir de confesser des évêques diocésains. La fraternité Saint-Pédis n'a plus d'existence officielle. Les évêques de la fraternité, les évêques qui s'occupent, disons, de la tradition, n'ont pas reçu leur pouvoir du Saint-Père. Alors, de quel droit le clergé traditionnel peut-il exiger de nous une dépendance dans notre action catholique? Et c'est donc à cette objection que je vais répondre. Donc, voyez-vous, finalement, ce que je vais dire ne vous regarde pas, parce que vous avez compris, mais regarderait plutôt ceux qui n'ont pas compris et qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui. Mais vous pourrez leur dire. Quelle est l'autorité du clergé catholique de tradition en situation de crise? Et spécialement leur autorité vis-à-vis des cercles de la tradition catholique. La thèse est la suivante, si je peux la résumer en quelques mots, avant de l'expliquer. Vos prêtres, car ce sont vos prêtres, vos évêques, vos paroisses de tradition, n'ont pas d'autorité ordinaire, mais une autorité extraordinaire, une autorité de suppléance. Et ensuite, je m'attacherai à chercher les caractéristiques concrètes de cette autorité de suppléance du clergé de tradition. Et donc, premièrement, si vous le voulez, le clergé traditionnel n'a pas d'autorité ordinaire sur les fidèles, car il n'a pas reçu cette autorité qu'on appelle la juridiction. Il ne l'a pas reçu par délégation ou par mandat du souverain pontife, ou des évêques diocésains, ou des curés en place. Et c'est le cas concret, spécialement, des prêtres de la fraternité, par exemple pour les confessions. Vous savez que pour la validité d'une confession, il faut que le prêtre ait le pouvoir de confesser. Et ce pouvoir, il le reçoit normalement de l'évêque. Or, il est bien évident que dans cette situation actuelle, c'est impossible. Alors, les confessions sont-elles invalides? Nous avons résolu cette question déjà depuis longtemps en la justifiant par le cas de nécessité des fidèles. On fait appel à donc des principes très élevés dans la hiérarchie des principes de l'Église. C'est le cas où l'Église va directement conférer juridiction aux prêtres, sans passer par les différents degrés de la hiérarchie. Ce sera l'Église elle-même, le corps mystique de notre Seigneur. Notre Seigneur lui-même, en tant que chef de son Église, qui va donner, dans des cas particuliers, juridiction aux prêtres. Vous connaissez, par exemple, le cas de l'erreur commune. Un prêtre se trouve dans une Église, il n'a pas juridiction, mais il a déjà le surplis et l'étole, et puis un fidèle lui demande de se confesser. Eh bien, ce prêtre a le droit de confesser, bien qu'il n'ait pas le pouvoir. Parce que l'erreur, le fidèle est dans l'erreur, ce qu'on appelle l'erreur commune. Dans cette situation, eh bien, l'Église supplée au défaut de juridiction, pour le bien du fidèle. Ou encore, quand un prêtre ne sait plus très bien sur la juridiction, il y a un doute. Eh bien, l'Église résout le doute en faveur de la juridiction. C'est le cas du doute, quand le prêtre doute de sa juridiction. De même, en cas de péril de mort, voilà un fidèle, n'est-ce pas, renversé par une voiture, eh bien le prêtre va pouvoir écouter sa confession, bien qu'il n'ait pas la juridiction. Parce que dans ce cas-là, l'Église ouvre grand, toute large, les portes de sa miséricorde et donne juridiction au prêtre. C'est l'Église elle-même, sans passer par la hiérarchie. Ces trois cas-là sont prévus par le droit canon. Et c'est le même principe dans les trois cas. Pour le bien des fidèles, pour le bien spirituel des fidèles, pour assurer au maximum les moyens de salut aux fidèles, alors on dit « ecclesia supplet ». L'Église supplée aux défauts de pouvoir du prêtre. Ou encore un autre principe du droit canon, une règle générale du droit canon, « salus animarum suprema lex ». La loi suprême, c'est le salut des âmes. Et en conséquence, l'Église supplée le défaut de juridiction. Donc ce n'est pas le bien du prêtre qui est en jeu. Ce n'est pas pour que le prêtre soit content d'avoir sa juridiction, de pouvoir confesser. Ce n'est pas ça. C'est pour le bien des fidèles. C'est ça qui est important de bien saisir. C'est pour votre bien à vous que vos prêtres vont donc recevoir une juridiction supplée. Pour le bon ordre, pour le bien commun de l'Église. Pas pour le bien personnel du prêtre. Pour le bien des fidèles. Dans ces trois cas, ecclesia supplet. Je vous ai parlé de la juridiction, du pouvoir de du prêtre, qui est le pouvoir de gouvernement dans l'Église. Disons-en quelques mots. Est-ce que c'est quelque chose qui manque au prêtre une fois qu'il est ordonné prêtre, quelque chose qui manquerait à son caractère sacerdotal et que l'évêque diocésain ajoute, n'est-ce pas, par une parole, voilà, je te donne juridiction, toc, comme un coup de baguette magique, n'est-ce pas, la parole de l'évêque donnerait quelque chose en plus au prêtre. Ce n'est pas tout à fait cela, ça serait caricaturiser la juridiction. La juridiction, c'est le fait que l'évêque donne un troupeau à un prêtre, ou encore que le pape donne un troupeau à un évêque, en lui donnant son diocèse. La juridiction, c'est un pouvoir du supérieur sur son troupeau, du pasteur sur ses brebis. Voilà ce que c'est que le pouvoir de juridiction. Le pouvoir de paître les brebis. On distingue, vous le savez certainement, dans l'Église, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Aller dans le monde entier, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, docete omnes gentes, enseigner à toutes les nations. Voilà, ça c'est le pouvoir de juridiction, enseigner. Ou encore, enseignez-leur à respecter tout ce que je vous ai commandé. Rappelez les commandements de Dieu, dirigez le troupeau. Ça c'est le pouvoir de juridiction. Et puis à côté, notre Seigneur donne à ses apôtres le pouvoir d'ordre, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est le pouvoir d'ordre, le pouvoir de sanctification, qui dépend directement du caractère du prêtre. Célébrer la messe, sanctifier les fidèles, pardonner les sacrements. Alors, il faut donc qu'en plus de son caractère sacerdotal, le prêtre ou l'évêque reçoive de son supérieur hiérarchique une portion du troupeau. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de juridiction. Alors, vous voyez, dans la situation de crise, il est clair que vos prêtres ne peuvent pas recevoir de leurs supérieurs dans l'Église, ou des évêques diocésains, ni même du pape, un troupeau particulier. Parce qu'on leur refuse cela. Donc il faut que ce troupeau, cette autorité sur un troupeau, leur soit donnée d'une autre manière, par une suppléance. C'est l'Église qui va donner aux prêtres un pouvoir comme le pouvoir du pasteur sur son troupeau. Normalement, le pouvoir d'ordre, comme je vous le rappelais un peu ce matin, c'est le pouvoir d'organiser l'Église, de hiérarchiser l'Église, spécialement le pouvoir de l'évêque. Mais ce pouvoir d'ordre du prêtre ou de l'évêque appelle normalement le pouvoir de juridiction. C'est normal qu'un évêque ou qu'un prêtre ait un troupeau particulier pour exercer ce pouvoir d'ordre. Mais dans la situation actuelle, c'est justement le cas anormal où le pouvoir d'ordre est privé injustement du pouvoir de juridiction. Alors c'est dans ce cas-là où l'Église va suppléer miséricordieusement, voyez, en faveur de votre bien, à vous, fidèles, au pouvoir de juridiction qui manquerait à vos prêtres. Donc il s'agit d'un pouvoir extraordinaire, un cas d'exception, voilà. À une situation exceptionnelle, répondent des pouvoirs exceptionnels. J'en ai dit un mot pour la confession, mais ça vaut pour toute l'amplitude du ministère sacerdotal. Il n'y a pas de raison de limiter ça à la confession. Et vous savez que la juridiction nécessaire aux prêtres est quelquefois nécessaire pour la validité des sacrements, pour la confession et pour l'assistance au mariage. Le prêtre doit avoir juridiction, sinon le mariage est nul. Bien que les deux fidèles, le fiancé et la fiancée, soient les ministres du sacrement. Bien, l'Église a ajouté une condition supplémentaire à la validité. Il faut que le contrat, le consentement matrimonial soit contracté devant le témoin officiel de l'Église, qui est normalement le curé. Alors, il est évident que nos prêtres n'ont pas ce pouvoir de façon ordinaire. Et donc, ils devront le recevoir de façon extraordinaire par cette même suppléance de l'Église. D'autres fois, ça sera seulement, la juridiction sera nécessaire seulement pour la licéité, pour que l'acte posé par le prêtre soit licite, soit permis. Par exemple, pour prêcher. Un prêtre doit avoir le mandat pour prêcher. Ou encore un évêque pour confirmer dans un autre diocèse. Normalement, il doit avoir le mandat de l'évêque diocésain. Un prêtre pour ordonner des prêtres. Pardon, un évêque pour ordonner des prêtres. À plus forte raison pour sacrer d'autres évêques. Normalement, il faut juridiction. Pour sacrer, il faudra le mandat pontifical. Bien, c'est la même chose. C'est le même principe qui s'applique. Dans une situation exceptionnelle, l'Église va suppléer au défaut de juridiction du prêtre ou même de l'évêque qui sacre. Et plus la crise sera grave, plus il sera nécessaire justement de faire appel à un plus haut niveau à cette juridiction de suppléance. Et ce qui s'est passé il y a 3 ans, le 30 juin 88. Donc, voyez bien, chers amis, c'est le cas de nécessité des fidèles qui fait que les prêtres de tradition, ou même les évêques de tradition, jouissent de cette juridiction de suppléance vis-à-vis de vos besoins. Non seulement pour confesser validement, pour assister validement au mariage, mais pour tous les actes de leur ministère sacerdotal ou épiscopal. Pour les confessions, vous vous souvenez certainement que Mgr Lefebvre invoquait le danger de mort spirituelle des fidèles. Voilà, des malheureux fidèles qui n'ont pas de prêtre de doctrine sûre, qui doutent même quelquefois de la validité des confessions. Est-ce que ce prêtre a vraiment l'intention nécessaire pour absoudre validement? On peut en douter. Eh bien, si je ne veux pas me confesser, alors que je suis sans cesse exposé à tomber peut-être dans des péchés graves, qui sait? Eh bien, je risque mon salut éternel. Je suis un danger de mort spirituelle. Eh bien, à ce moment-là, dans ce danger de mort spirituelle, l'Église supplée. L'Église va placer, ipso facto, ce fidèle sous la juridiction du prêtre. L'Église va placer ce fidèle comme une brebis et va en faire une brebis de ce prêtre qui sera son pasteur pour le cas déterminé. Donc, va s'établir entre le fidèle et le prêtre un rapport de brebis ou d'agneau vis-à-vis du pasteur. Voilà. Et ce rapport d'autorité ne viendra pas d'une délégation de la hiérarchie de l'Église, mais d'une suppléance de l'Église, corps mystique de notre Seigneur elle-même. Essayons de caractériser cette juridiction de suppléance. Quelles sont ses caractéristiques? D'abord, c'est une juridiction donc de suppléant. C'est sa définition elle-même. Il s'agit de suppléer au défaut de juridiction du prêtre ou de l'évêque. Ecclesia supplet. Ce sera ni le pape ni la hiérarchie diocésaine qui donnera le troupeau, mais ce sera l'Église, ou encore notre Seigneur Jésus-Christ, tête de son corps mystique, qui va sanctionner, voyez, qui va déclarer, en somme, le cas de nécessité des fidèles. Le fait que vous êtes actuellement, si vous n'aviez pas le clergé de tradition, vous seriez, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile, comme des brebis dispersées sans pasteur. J'ai pitié de cette foule, dit notre Seigneur, car ils sont comme des brebis sans pasteur. Voilà. Eh bien, c'est le cas actuel. S'il n'y avait pas le clergé de tradition. Alors, l'Église tient compte de cette situation intolérable, qui n'est pas du tout normale, et elle va donner entre vous et les prêtres de tradition ce lien d'autorité nécessaire pour faire un pasteur et un troupeau. Donc c'est une juridiction de suppléance. L'Église supplée le défaut de lien ordinaire entre vous et vos prêtres. Elle va créer un lien. L'Église va créer ce lien en raison de votre besoin spirituel. Donc, juridiction de suppléance. Deuxièmement, deuxième caractéristique de cette juridiction extraordinaire, c'est une juridiction personnelle et non pas territoriale. Et ça est très important à bien le saisir. Vos prêtres ont juridiction sur vos personnes. Et non pas sur un territoire. Les prêtres de tradition ont juridiction sur chacun de leurs fidèles qui fréquentent leur chapelle ou leur église de tradition, ou leur prieuré ou leur couvent de tradition. Et non pas sur un territoire déterminé, comme l'est par exemple le territoire d'une paroisse. Chez l'abbé Laguérie, curé par suppléance de Saint-Nicolas du Chardonnay, n'a pas le pouvoir de juridiction sur les habitants du quartier, sur les habitants du 5e arrondissement. Non. Il a pouvoir sur les personnes, les familles, disons, des fidèles qui fréquentent son église, qui lui demandent le secours de son ministère sacerdotal. Donc c'est une juridiction personnelle et non pas territoriale. Ça tient à la situation de crise de l'Église. Donc il faut bien voir, quand nous disons que nos églises sont nos paroisses, c'est vrai, mais il faut voir que c'est vrai sans être pareil. C'est pareil sans être pareil. Et enfin, troisième caractéristique de cette juridiction de suppléance, et non seulement une juridiction exceptionnelle de suppléance, non seulement une juridiction seulement personnelle, mais une juridiction qui dépend essentiellement des fidèles et non pas du prêtre. Je m'explique. C'est dans la mesure et pour le cas précis où le fidèle demande au prêtre son ministère sacerdotal, les sacrements, la doctrine, etc., que le prêtre a juridiction, cas par cas. C'est dans l'exacte mesure où vous demandez au prêtre son ministère que, on peut dire, vous donnez au prêtre la juridiction nécessaire. Si vous ne demandez pas, le prêtre ne peut rien. Il ne l'a pas, la juridiction. Donc elle dépend de vous. Situation tout à fait spéciale, qui n'est pas normale. Normalement, un curé de paroisse, eh bien, peut rattraper une brebis peut-être un petit peu galeuse, je ne sais pas, et lui faire dire attention, reviens à l'église, etc. Il peut leur donner les munitions. Dans le cas précis, vous voyez, c'est différent. Il faut que la brebis vienne volontairement se soumettre à la juridiction du prêtre, lui demandant le secours de son ministère, de son autorité sacerdotale. C'est là la limite et la fragilité de l'organisation de nos paroisses et traditions. On ne peut pas le nier. Vous voyez, Il faut faire œuvre de vérité. Il s'agit d'affirmer les principes, de connaître les principes. C'est la fragilité, la limite de l'organisation de nos paroisses de tradition. C'est-à-dire, c'est de la mesure exacte dans laquelle vous demandez au prêtre son ministère, c'est dans cette même mesure que dépend l'étendue, l'efficacité, le sérieux, le continu, l'amplitude de son pouvoir sur le troupeau, sur vous. Il est bien évident que si vous ne demandez rien à vos prêtres, ou peu de choses, le prêtre sera paralysé. Monseigneur Lefebvre a dit, et c'est parfaitement vrai, vos chapelles sont vos paroisses. Considérez vos prieurés, vos chapelles, comme vos paroisses. Vous y êtes. Ne retournez plus dans vos paroisses d'autrefois, qui sont tombées aux mains des modernistes. Considérez vos chapelles comme vos paroisses. Mais en disant cela, Mgr Lefebvre n'avait pas le droit d'usurper pour ses prêtres une juridiction ordinaire qu'ils n'ont pas. Mais il avait l'intention de vous faire considérer, de faire prendre conscience à vous, fidèles, laïcs, que c'est votre devoir de demander de vos prêtres, tradition, dans vos chapelles, tout le ministère sacerdotal qu'ils peuvent vous donner. C'est votre devoir de leur demander tout le ministère sacerdotal qu'ils sont en mesure d'assurer. C'est votre devoir de vous confier totalement à vos prêtres de tradition, de ne pas seulement leur demander la messe, le baptême, le sermon, et puis c'est tout. Sinon, vous paralysez le prêtre. Il ne peut pas exercer son ministère sacerdotal dans toute son amplitude. Alors, quelles sont les conséquences de ce principe? Il me semble très important pour l'état d'esprit des fidèles. Autrefois, le curé n'avait qu'à donner un petit coup de baguette, n'est-ce pas? Et tout le monde obéissait à la baguette. On a pris cette habitude, c'était très bien en principe, n'est-ce pas? Le curé a parlé, ses paroles d'évangile, on ne doute pas, on obéit, voilà. Mais actuellement, évidemment, ce n'est plus le cas. Il faut donc qu'il y ait un état d'esprit qui s'établisse dans les fidèles vis-à-vis du clergé de tradition. Je dirais une soumission volontaire au clergé de tradition. Ressentir en vous-même ce besoin d'une dépendance totale dans toute l'amplitude du ministère sacerdotal vis-à-vis de vos âmes. Et ceci, je pense, est une exigence du sens de l'Église. Si vous avez le sens de l'Église, le sens de la hiérarchie de l'Église, vous comprenez cela. Le sensus ecclesiae. Le sens de l'Église de la part des fidèles leur fera éviter deux écueils, deux attitudes dangereuses, opposées l'une à l'autre. C'est comme toujours. Les erreurs, vous savez, c'est toujours par excès et par défaut, et la vérité se situe comme un sommet. Non pas comme un milieu libéral entre les deux, mais comme un sommet au-dessus des deux erreurs opposées, par erreur et par excès et par défaut. Bien, je dirais, il y a deux attitudes dangereuses qui sont opposées au sens de l'Église dans la crise actuelle de l'Église, qui sont pas conformes à la constitution divine de l'Église. Une erreur par excès et une erreur par défaut. D'abord, une erreur par excès, c'est dire, ben voilà, tous les évêques ou presque ont apostasié la foi catholique, ou du moins ils ne la prêchent plus, donc il n'y a plus de hiérarchie légitime. Il n'y a plus ni pape ni évêque légitime dans l'Église. Et donc la vraie hiérarchie catholique, la seule, eh bien c'est Mgr Lefebvre, les quatre évêques, les supérieurs de district, les prieurs, leurs vicaires. Voilà, ça c'est la hiérarchie de l'Église. C'est le clergé de tradition dans cette organisation hiérarchique apparente. Et bien, il faudrait du reste qu'un des quatre évêques soit élu pape. Oui. Comme ça, on compléterait l'apparence hiérarchique. Voilà. Et c'est ce que certaines sectes n'ont pas hésité à faire. Ils sont tombés sur cet écueil. Alors, c'est faux, bien sûr. Nous récusons cette analyse et ses conséquences. Hein. Certes, on peut douter beaucoup, dans nombreux cas, de la légitimité de certains évêques. Hein. Bon, on peut avoir des doutes, évidemment, sur le pape lui-même. Bon, ce sont des doutes, mais nous n'avons pas l'autorité de trancher ces doutes. Hein. L'Église jugera elle-même, un prochain concile ou un prochain pape jugera de la juridiction mystérieuse de ces papes, Jean-Paul II, Paul VI déjà. Bon, ce n'est pas à nous de juger, nous n'avons pas le pouvoir, même un évêque singulier n'a pas le pouvoir de décider ces choses-là. C'est l'Église qui devra résoudre ces problèmes, elle le fera sans doute. Et sans doute peut-être pas avec des décisions en disant que ce pape n'était pas pape, je ne pense pas, ça n'est jamais arrivé dans l'Église qu'on décide qu'un pape n'avait pas été pape. On dira que c'était un mauvais pape, qu'il avait professé des erreurs, bon, des hérésies peut-être. Donc nous ne pouvons pas dire que la hiérarchie de l'Église catholique n'existe plus. Elle est défaillante en grande partie, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe plus. Nous ne pouvons pas dire cela. Et deuxièmement, nous ne pouvons pas non plus dire que la fraternité, puisque c'est d'elle surtout des questions, étant donné qu'il y a des évêques, il y a des supérieurs, il ne faut pas dire qu'elle est constituée en hiérarchie comme une hiérarchie de l'Église, avec un pape, des évêques, des curés, etc. Ce n'est pas la même chose. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Et non. La hiérarchie de la fraternité, la seule hiérarchie, c'est une hiérarchie de suppléance. C'est tout. Les prêtres ont pouvoir directement sur les fidèles, dans les prieurés, dans les paroisses de tradition, dans les chapelles. Ensuite, les supérieurs de district ont pouvoir sur leurs prêtres. En principe, c'est tout, selon la concession de la fraternité. Ils n'ont pas pouvoir sur les fidèles, en principe. Mais, en raison de la crise de l'Église, ils auront quand même un pouvoir de suppléance sur les fidèles. On invoquera le principe de subsidiarité, ce que les simples vos simples prêtres dans les prieurés ne peuvent pas faire, ce sera le supérieur de la district qui va y suppléer pour le bon ordre de nos prieurés. Donc il faudra que les supérieurs de district s'occupent également de l'apostolat de leurs prêtres et donc aient des rapports avec les fidèles. Mais c'est une juridiction de suppléance. De même, le supérieur général de la fraternité Saint-Pédis n'a pas en principe pouvoir direct sur les fidèles. Mais il aura quand même, pour les grandes questions, les questions difficiles, que les simples prêtres ou même que les supérieurs de district ne peuvent pas résoudre, un pouvoir de suppléance, en vertu du principe de subsidiarité. Eh oui. Donc, à tous les échelons, la hiérarchie de la fraternité, la hiérarchie de la tradition, si vous voulez, n'a qu'un pouvoir de suppléance et non pas un pouvoir ordinaire. Par conséquent, il n'est pas question de dire « Mgr Lefebvre constitue l'Église ». Ne pas parler de l'Église de Lefebvre, comme disent les journaux. En allemand, on dit « Lefebvre Kirche », l'Église de Lefebvre. On méprise dans la secte à Lefebvre, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Il y a simplement l'Église catholique, avec ses défaillances incompréhensibles, généralisé, et puis dans l'Église catholique, le clergé restait intégralement fidèle à la foi. Parce que c'était nécessaire, eh bien, une certaine organisation, et puis des évêques. Voilà. Avec leur pouvoir sur vous, mais qu'est seulement un pouvoir de suppléance. Donc ça, c'est l'erreur par excès. Dire qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'Église, donc, finalement, vous n'avez pas de juridiction, ou plutôt si, il y a plus de... Donc, créons une juridiction et soumettons-nous à cette juridiction. Créons une nouvelle Église. Erreur par excès. Non, nous ne pouvons pas créer une Église. Erreur par défaut, maintenant, eh bien, ce serait de dire, les prêtres traditionnels, dans nos prieurés, dans les couvents, n'ont pas de juridiction du pape ou de l'évêque, donc n'ont pas de pouvoir sur nous. De quel droit existe-t-il quelque chose de nous ? Nous sommes bien libres. Restons libres. Sommes libres de nous placer ou de ne pas nous placer sous leur autorité. Alors cette mentalité est aussi un écueil qui répugne au sens de l'Église. ça serait profiter vraiment de la crise de l'Église, hein, sous aspect de liberté. On est bien libre. Et c'est particulièrement dangereux pour l'apostolat des laïcs. Où c'est vrai, il y a une grande part de liberté dans l'apostolat des laïcs, parce que bien souvent, leurs tâches ne sont pas les tâches normales d'un prêtre, de faire rayonner l'ordre social chrétien dans la cité, bien sûr. Donc il y a une certaine part d'autonomie des laïcs dans leur action catholique, ça c'est vrai. Mais de se dispenser totalement de tout lien avec la hiérarchie, ce n'est pas le sens de l'Église. Et de dire cela à l'occasion de la crise de l'Église, parce que le clergé traditionnel n'a pas de pouvoir ordinaire sur nous. Ça serait manquer, vraiment, au sens de l'Église, que de tenir un raisonnement comme cela. Donc évitons ces deux écueils, par excès ou par défaut. Et donc, nous sommes, si vous voulez, dans une situation un peu paradoxale vis-à-vis de l'action catholique à l'heure actuelle. Il y a quelques décennies, la cité catholique, puis l'office, ont eu tant de mal à trouver l'appui du clergé. Ils cherchaient des évêques, puis se soutenir, ils n'en trouvaient pas, sauf Mgr Lefebvre. Ils cherchaient des aumôniers, et puis Mgr le disait, attention, casse-cou, ne cherchez pas des aumôniers dans le clergé actuel, ils sont tous progressistes, ils vont tous vous torpiller. Non, développez-vous sans prêtre, puisque la situation est comme ça. Donc, vous voyez, ces fondateurs de la cité catholique, qui avaient l'esprit parfaitement catholique, en ont été réduits, donc, à fonder une organisation d'action catholique, au sens strict, sans l'appui sacerdotal, en raison du défaut des prêtres. Et maintenant, leurs successeurs, ceux qui leur ont succédé, n'est-ce pas, il y a quelques mois, donc, eh bien, voudraient donc se priver de la dépendance du clergé, alors que maintenant, il y a un bon clergé. Maintenant qu'ils ont des prêtres, de bons prêtres, j'espère, des prêtres bien formés quand même. Bon, ils ne sont pas tous spécialisés dans toutes les questions sociales et politiques, c'est entendu, mais ils ont les grands principes. Et maintenant que vous avez un bon clergé, alors vous devriez vous priver du rayonnement sacerdotal sur votre action catholique. C'est un paradoxe. Sous prétexte que ces prêtres n'ont pas juridiction. Et ils ont une juridiction de suppléance. C'est à vous à faire appel à cette juridiction de suppléance. Je dirais donc bien au contraire, voyez, le sens de l'Église, le sensus ecclésiae, doit persuader les fidèles laïcs de soumettre volontiers leurs activités apostoliques au clergé de tradition. Parce que c'est dans l'ordre. C'est le sens de la hiérarchie. Soumettre votre action catholique au conseil et à la haute direction de la hiérarchie de tradition. Pour reprendre les mots de Saint Pilis que M. Le Bonnetaire vous citait hier et moi-même ce matin. C'est une dépendance vis-à-vis du conseil et de la haute direction du clergé. La hiérarchie, c'est-à-dire les évêques, et sous leur dépendance, les prêtres. Ça correspond à la constitution hiérarchique de l'Église. Et donc, il y a une nécessité pour que les fidèles comprennent bien cela, d'autant plus que le clergé ne peut pas exiger strictement cette dépendance, puisqu'il n'a pas juridiction ordinaire sur les fidèles. Donc, vous voyez, je vais insister sur les nécessités morales de l'état d'esprit des fidèles, vous. Il y a une exigence morale spéciale liée à ce temps de crise. Cette situation d'exception, qui donne seulement une juridiction de suppléance aux prêtres, demande de la part du clergé, bien sûr, un peu de doigté, de prudence, de sagesse, il ne peut pas exiger en strict droit. Donc le clergé devra comprendre les principes qui entrent en jeu. Mais cette situation exige spécialement de la part des fidèles de la vertu, tout simplement, de la vertu. du sens hiérarchique, le sens du besoin où vous êtes d'un lien de dépendance vis-à-vis du clergé traditionnel dans toute l'amplitude du ministère sacerdotal, dans toute l'amplitude de votre action apostolique. Donc une soumission volontaire, d'autant plus volontaire que le clergé peut moins l'exiger. Je pense qu'on pourrait résumer mon propos dans cette petite phrase. Vous voyez, votre soumission, votre dépendance vis-à-vis du clergé, peut être d'autant plus volontaire que le clergé peut moins l'exiger. Donc ça demande une vertu morale de votre part. Et les récentes difficultés, les tensions si pénibles qui ont eu lieu, sont dues en grande partie à la méconnaissance de ces exigences morales extraordinaires vis-à-vis de la part des fidèles. Donc c'est à vous, bien chers fidèles catholiques, de réclamer, de rechercher cette dépendance bienfaisante et nécessaire dans vos cercles de tradition. Ça ne veut pas dire que le prêtre va tout faire. Non. Le prêtre sera, comme disait M. l'abbé Voltaire, le conseiller, le guide, le docteur, voilà. Pas nécessairement le chef, mais il restera dans son autorité spirituelle, mais il y aura ce lien de dépendance indispensable. Appliquons ces principes au cercle de la tradition catholique, très brièvement. Ce matin, j'essayais de résumer cette idée du pape Saint-Pie-X qui considère deux sortes d'œuvres d'apostolat des laïcs, directement la participation des laïcs au ministère sacerdotal, dans la mesure où c'est possible, l'enseignement de la jeunesse, les professeurs dans nos écoles, voilà. Ou encore l'éducation de la jeunesse, ou les mouvements proprement apostoliques, le MJCF, qui ont pourvu de convertir des âmes. Il est évident qu'un tel mouvement a une dépendance essentielle vis-à-vis du clergé, et c'est par erreur, tout à fait d'une façon erronée, qu'on dirait qu'un tel mouvement comme le MJCF est un mouvement d'action catholique au sens large, qui a une dépendance très large du clergé. C'est une erreur. Dès lors qu'il s'agit de convertir des âmes, une dépendance intrinsèque vis-à-vis du clergé, ou encore le mouvement scout, par exemple, ou encore ce qui existait autrefois, la Legio Mariae, la Légion de Marie, qui avait pour but, par l'intercession de Notre-Dame, voyez, de convertir des âmes. Ça, donc, si vous voulez, c'est une participation au ministère sacerdotal, de la part des laïcs, qui exige un mandat. Le prêtre donne un mandat aux laïcs, d'exercer une part de son apostolat sacerdotal. Autre chose est l'action catholique au sens large, l'action catholique telle que la définit Saint-Pie-X, qui est une collaboration. Non pas une participation, mais une collaboration à l'apostolat du prêtre pour faire diffuser la doctrine catholique dans la cité temporelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action catholique, au sens strict. Et là, eh bien, il ne faut pas dire qu'une telle action catholique, parce que ce n'est pas le ministère du prêtre, est indépendante du prêtre, non. Saint-Pie-X, je vous le rappelais ce matin, disait qu'on ne peut nullement concevoir cette action catholique des fidèles d'une façon indépendante du conseil et de la haute direction de l'autorité ecclésiastique. J'espère ne pas avoir été trop confus, mais c'est une distinction intéressante. Le pape Pie XII reprendra cette distinction peut-être d'une façon plus souple, en disant qu'il y a toute une gradation dans la dépendance des œuvres d'action catholique vis-à-vis de la hiérarchie. Plus une œuvre est une œuvre proprement sacerdotale, plus elle doit avoir une dépendance intime vis-à-vis du prêtre. Plus une œuvre sera proprement laïque, appartenant aux laïcs, plus le lien vis-à-vis du clergé pourra être un peu plus large. Mais il n'est pas question de donner une autonomie au laïcat dans son action. C'est impossible. Ça répugne au sens catholique, au sens de la hiérarchie de l'Église. Comme je vous le disais ce matin, tout est fondé sur les caractères des trois sacrements à caractère. Le baptême et la confirmation vous font donc fils de l'Église, enfant, frère en Jésus-Christ et soldat du Christ, bon, témoin de Jésus-Christ, donc nécessité de répandre l'Évangile, vous, mais il ne vous constitue pas dans la hiérarchie. C'est seul le caractère du sacrement de l'ordre qui constitue la hiérarchie et donc qui va organiser l'Église. Donc les deux caractères du baptême et de confirmation sont sous la dépendance du caractère du sacrement de l'ordre. Donc réalisez cela, et vous l'avez bien compris, il suffit d'appliquer ces principes à nos cercles de la tradition catholique. Le prêtre ne fera pas tout, mais le prêtre sera là pour l'être, l'inspirateur, le guide, le conseiller, le docteur, au besoin, qui rappellera les grands principes, qui maintiendra la droite ligne doctrinale, évitera les déviations. Nous sommes pour les hiérarchies. Voilà. Parce que nous sommes catholiques, nous sommes pour les hiérarchies. Nous voulons respecter les hiérarchies divinement instituées, que ce soit les hiérarchies surnaturelles que les hiérarchies naturelles. Si je pouvais essayer de résumer les propos de nos chers conférenciers d'hier et d'aujourd'hui, je pense que nous avons bien saisi que la Révolution a voulu renverser ces hiérarchies. La Révolution, c'est le désordre. La cité catholique, c'est l'ordre. Alors, la Révolution a voulu renverser toutes les hiérarchies à tous les niveaux, en proclamant liberté, égalité, fraternité. Liberté, donc on est libre vis-à-vis d'une autorité. Égalité, donc il n'y a plus d'autorité. Fraternité, c'est pareil, nous sommes tous frères. Pas question d'un père et de fils, non ? Voyez, donc ces trois slogans de la Révolution bon, suppriment toute hiérarchie. Bon, nous avons énuméré au cours des diverses conférences d'hier et d'aujourd'hui une série de hiérarchies qui sont supprimées par la Révolution. Vous vous souvenez, bon, la hiérarchie dans l'Église, évêques et prêtres, prêtres et fidèles. Avec le Concile Vatican II, on parlera du peuple de Dieu. Donc on va estomper le pouvoir hiérarchique dans l'Église. Par les collégialités, le Saint-Père, le Pape, va se priver de son autorité, il va vouloir la partager avec les évêques. Les évêques voudront la partager entre eux, ne plus l'exercer personnellement sur leur diocèse, et même la partager avec leurs prêtres, avec le conseil presbytéral. Le curé va établir un conseil paroissial pour ne pas exercer son autorité personnelle. Donc à tous les niveaux, on ne veut plus dans l'Église de hiérarchie. On veut la démocratie. Alors nous luttons contre cela. Hiérarchie dans la société conjugale, donc mari et femme, on nous rappelait très bien hier qu'ils ne sont pas égaux. Ils sont égaux selon leur baptême, bien sûr, leur confirmation. Enfants de Dieu tous les deux, mais ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires. Il faut un chef, il faut une tête, il faut un cœur. Les deux. Alors nous sommes pour cette hiérarchie naturelle, voulue par Dieu, Théocratias. Mon Dieu l'a voulu comme ça. Hélas, l'encyclique Familiaris Consortio, on nous le disait, estompe et supprime cette hiérarchie. De même, hiérarchie des parents sur les enfants, dans la société familiale. Eh oui, actuellement, on veut que les parents deviennent les esclaves des enfants. Nous sommes contre cette révolution dans la famille. Autre hiérarchie, les hiérarchies entre les deux fins du mariage. Traditionnellement, la fin première du mariage, vous savez bien, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Et la fin secondaire, c'est seulement l'aide mutuelle entre les époux et le soulagement de la concupiscence. Bon, bien maintenant, on veut inverser les deux fins du mariage, mettre l'épanouissement des époux au-dessus de la procréation. On inverse. Et même l'épanouissement des époux, on en fait quelque chose de personnel, par ce faux personnalisme. Chaque époux recherche son épanouissement dans le mariage. C'est faux. C'est le contraire. C'est chaque époux qui cherche l'épanouissement de l'autre. Sinon, c'est l'égoïsme. l'aide mutuelle entre les époux. On veut inverser toutes les hiérarchies. Également dans la société, mettre la conscience à la place de la loi. Monseigneur Lefebvre nous a rappelé ça très souvent. Liberté religieuse, objection de conscience. On met la conscience individuelle, subjective, donc une norme subjective, à la place de la norme objective qu'est la loi. Et pourtant la conscience, elle est faite pour se soumettre à la loi. Ce n'est pas la conscience qui fait la loi. Ce n'est pas la volonté générale, nous rappelait-on ça hier, qui crée la loi. C'est la loi qui va polir la volonté d'un peuple, qui va la créer, qui va la faire. Enfin, autre hiérarchie bafouée par la Révolution, détruite par la Révolution, la liberté mise à la place de la foi. Eh oui, la liberté de recherche proclamée aux dépens de la protection de la foi catholique, de la liberté religieuse. On exalte la liberté de recherche et on détruit toutes les barrières, toutes les protections de la foi catholique. Alors il est bien évident que cette cité, cette civilisation antichrétienne qui se construit sur cette inversion des hiérarchies mène l'humanité à la ruine. Alors, nous ne sommes pas du tout de cet esprit, au contraire. Nous estimons que l'échec guette toutes les œuvres qui n'observeraient pas, dans tous ces points, les hiérarchies divinement instituées par Dieu, dans l'ordre surnaturel comme dans l'ordre naturel. Le succès, les fruits de nos cercles de la tradition catholique viendra de ce qu'ils enseigneront. C'est la part doctrinale essentielle de nos cercles, ces hiérarchies dans tous les domaines. Vous les enseignez, vous allez les méditer, les contempler, les goûter, et puis ensuite qu'ils les pratiqueront concrètement. Ainsi, vous aurez, chers amis, ce respect de l'ordre qui n'est rien d'autre, cet ordre naturel et surnaturel qui n'est rien d'autre qu'un reflet de la sagesse de Dieu, de la sagesse du Créateur, auquel nous ne pouvons pas échapper sans concourir à la ruine. Donc ayons ce grand respect pour l'ordre, pour les hiérarchies, et ainsi nous serons dans l'ordre voulu par le bon Dieu dans notre action catholique.